On est au deuxième chapitre. On a commencé la deuxième Mishnah, Gamliel ben Shel Rabbi Yehuda Hanassi Omer. Donc c'est le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, Rabban Gamliel, qui était le Nassi. Après Rabbi Noah Kadosh, c'est son fils qui était le Nassi. Le premier Mahamar, on a déjà dit. On a un deuxième. Tous les gens qui travaillent fortement, qui travaillent amélim. Amélim, ça veut dire qu'ils travaillent d'une façon ardue, qu'ils travaillent toutes leurs forces. Imatzibur, ceux qui travaillent avec la communauté. Yu amélim imaem l'eshem shamaim. Eh bien, c'est bien que de travailler l'eshem shamaim. Lui-même, il était le nasi. Il savait qu'est-ce que c'est travailler avec le tzibur. Et il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec le tzibur. Donc, il a encouragé les gens de travailler l'eshem shamaim. C'est-à-dire quoi, le Shem Shamaïm? Pour Dieu. Et pas pour son propre intérêt. C'est bien travailler pour la communauté, travailler pour Dieu, le Shem Shamaïm. Pour les intérêts célestes. Pour les intérêts de Dieu et pas pour son honneur. Pour faire monter son nom. Ça, c'est Rabbi Gamliel qui dit. Lui, c'est le fils de Révi, donc c'est l'arrière-petit-fils de Hillel. On avait déjà vu Hillel au premier père qu'il a déjà dit. Negit Shema, Avat Shemé. Ce qui étire son nom sera perdu. Alors, lui, il dit aussi, quand on travaille avec la communauté, il faut travailler le Shem Shamaim. Shezrut Avotam Mesayatan. Le mérite de leurs parents. Qui c'est les parents? Les parents de la communauté. Ou les parents Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est ça qui va aider. Ça veut dire que si tu travailles avec la communauté, tu réussis. Alors on a la tendance de penser, ah oui, c'est grâce à moi. C'est moi, voilà, moi j'ai fait. Eh bien, Rabban Gamliel, il te dit, ne te prends pas la tête, c'est toi qui as fait. C'est le schout du Tzibour, le clan Israël et la Desruyot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et aussi la communauté et les parents des communautés. Ils ont du mérite. Et des fois, la communauté, tu te dis, bon, la communauté, peut-être, elle n'est pas très. Ce n'est pas des gens de super valeur. Donc, si j'ai réussi, c'est bien grâce à mon mérite. Alors, il te dit, mais la communauté a des parents. Peut-être, eux, ne sont pas très importants, mais ils avaient des parents qui étaient des grands personnages. Et qu'est-ce que tu sais? C'est leur schout qui a aidé. Leurs parents, leurs grands-parents, leur route reste éternelle, ça veut dire quoi? Tu connais ta communauté, tu dis, mais ce n'est pas des gens importants, mais je connaissais leurs parents aussi, ils n'étaient pas importants. Mais qu'est-ce que tu sais qu'étaient leurs arrière-grands-parents, arrière-arrière? Oui, non, mais ce n'est pas leur route qui va aider aujourd'hui. Oui, tzidkatam, omedet la'ad, la tzidkout de leurs parents, de leurs grands-parents, ça reste éternel. Un homme, il est tzaddik. Il peut laisser son mérite pour son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, comme dit la Mishnah dans Masechet Makot. Un homme qui refuse Gezel va'arayot, il le zoché, comme dit la Mishnah dans Makot, zoché lo, vele zaro, ou le dorotav, ou le dorot-dorotav, atzof kol ha-dorot. Il a mérite pour jusqu'à la fin de toutes les générations. Alors, si aujourd'hui tu réussis super bien avec ta communauté, ne pense pas que c'est grâce à toi. Cette communauté, elle a des parents, des grands-parents, ils ont une route. Grâce à ça, tu as réussi. Mais malgré que c'est le route de la communauté ou de leurs parents qui ont fait que tu as réussi, mais ne pense pas, bon, alors c'est pas grâce à mon route, donc c'est pas grand-chose que je fais. Donc, je n'ai pas besoin de travailler. Non, on a besoin de ton travail. Oui, d'accord, on a besoin de mon travail, mais ce n'est pas moi qui va récolter le salaire. Oui, tu vas récolter le salaire. Ki'ilu asitem. Comme si c'est toi qui as fait. Vis-à-vis du salaire, Akadosh Baruch Hu considère, c'est tu reçois un immense salaire, le salaire de tous. Un homme qui fait les mitzvot tout seul, il a le shachar de ses mitzvot. Un homme qui fait faire la communauté des mitzvot, un homme qui mezakeh tout le tzibour, eh ben tous les mitzvot, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à qui tu aides pour faire des mitzvot, tu auras la récompense keneged kulam. Ça veut dire c'est une super affaire. Un homme, il a 100 euros, il a 100 euros, il met dans une machine à une photocopieuse, et il va imprimer 1000 fois. Bon, c'est interdit. Pour l'argent, ça ne marche pas. Pour une simple photocopie, ça marche. Eh bien, ici, tu travailles avec 1000 personnes, tu as mesaqué 1000 personnes, eh bien, tu auras 1000 fois la récompense, malgré qu'en vérité, le mérite n'est pas grâce à toi. C'est le Shruta Avot, quand même, on te donne. Donc, ça donne une immense sakhar. Shruta Avotam Mesayatam. Mais lui, il a dit le mot Vachol Ha'amelim, tous ceux qui travaillent avec le Tzibbour. Alors, Amelim, Amel, ça veut dire acharné, travailler inlassablement, travailler même quand c'est difficile. Amel, c'est quelque chose, un travail même quand c'est difficile. Et quand on travaille avec les tzibbour, on utilise le mot Amel. Tous les gens qui travaillent avec les tzibbour, ils savent qu'il n'est pas du tout facile de travailler avec les tzibbour. Les tzibbour est très difficile. Que ce sera chez les juifs, l'Avdil chez les pas-juifs, quelle politique, c'est très difficile. Les gens sont tellement différents. Et les petites jalousies, et les déçus du système, et des jaloux de ceux qui travaillent, de ceux qui sont en haut, la jalousie, la kina, la sina, et toutes sortes de difficultés. Et même si c'est sans kina, sans sina, il y a tellement beaucoup de choses à aider, à travailler dans une communauté. Il y a des fois des gens qui commencent à travailler, ils se découragent parce que c'est trop difficile. Il faut s'acharner. Voilà, mais éliminer Tzibourg, comment s'acharner? Mais c'est trop difficile. Mais fais le Shem Shamayim, tu auras une immense récompense. Pourquoi le Tanaï, il promet la récompense? Il promet parce que c'est vrai. Et pourquoi il le parle de ça, de cette récompense? Parce que les gens qui travaillent avec les Tzibourg, ils ont besoin des encouragements. Normalement, les gens qui travaillent avec les tzibbour, des réclamations, ils en entendent tous les jours. Réclamer, réclamer. On va toute la politique, on va toujours réclamer contre ceux qui sont les chefs. Et dès qu'il dit un mot qui plaît pas à quelqu'un, eh ben, on lui tombe dessus. Et à plus forte raison, quand il a fait une erreur, il a dit un mot qu'il fallait pas dire, oui, ou il a fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Tous les journalistes, ils tombent dessus et tout. Mais toutes les choses qu'ils font, comme les gens qui travaillent pour le tzibbour, les choses qu'ils font, qui sait apprécier? Les gens qui sont là ne savent pas apprécier. Ils ne savent pas. Pour leur donner une fois une journée, ils vont savoir qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que le Tanaï nous dit, Amélie, mais le tzibbour, je sais que c'est difficile, mais sachez qu'il y a une grande récompense. Spécialement, quand on le fait, le Shem Shamaïm, on le fait pour Dieu. Il y a une aide du ciel et il y a une grande récompense. Et continue, dit Rabban Gamliel, et vous zehirim parachute. Faites attention, parachute, avec le pouvoir public, faites attention. À qui il parle? À monsieur tout le monde. Et à plus forte raison, il parle aux personnes qui travaillent avec le tzibbour. Il vient de parler aux gens qui travaillent avec le tzibbour. Quand on travaille avec les tzibbour, souvent on est obligé de fréquenter les gens du pouvoir. Tu veux quelque chose pour la communauté, il faut demander le maire, il faut demander le préfet, il faut demander le roi, les ministres, etc. On doit monter des fois pour, même si un particulier n'a pas besoin de voir les hommes politiques, mais pour la communauté, il y a toujours des choses il faut les politiques. Alors il dit, même si vous travaillez pour le tzibbour, faites attention. Et vous hirim parachute, faites attention d'eux. Ça veut dire quoi faire attention? Ne pas leur faire trop confiance. Ne pas vendre le secret. Ne pas être un grand ami d'eux. Ne pas rentrer dans le rouage du système. Il faut faire attention. Eux, quand ils rapprochent quelqu'un, quand ils sont très contents, ils t'invitent, tu recevras une invitation pour la mairie, pour le préfet, tu es élu parmi les VIP, tu reçois une carte VIP. Ah oui, ça y est, j'ai une carte VIP, je n'ai pas besoin d'attendre dans la queue, j'ai l'entrée des artistes derrière et après, on est toujours dans le lunch spécial, on a un quart d'heure, comment ça s'appelle? Eh bien, fais attention, ne crois pas que ce sont tes amis. Fais attention, si eux, ils te donnent de l'honneur, s'ils te permettent de les fréquenter, ce que eux, ils cherchent, c'est leur intérêt, ce n'est pas ton intérêt. On te fait maintenant plaisir parce qu'ils t'ont besoin. Donc, sache que dans la politique, comme il disait un grand politicien, je ne me rappelle pas si c'était De Gaulle ou je ne me rappelle pas qui, il a dit dans la politique, il n'y a pas moralité, immoralité. Il y a des intérêts. Un chef d'État, il défend ses intérêts. Peut-être ses intérêts de son pays, peut-être pas son intérêt personnel, les intérêts de son pays. Mais il défend des intérêts. La moralité, ça, c'est pour ça, toujours se marche avec un jour on fait comme ça, un jour on change les. On change les données, ça dépend d'après les intérêts. Chez une carvino la dame elle le tzorech hatzman, nirin que ohavin beshat hanaatan. Ils ressemblent comme des amis au moment que eux ils profitent de toi, ils sont tes amis. Ve'enom dimlo la dame beshat dorko, mais ils vont pas aider à quelqu'un au moment que ça ne marche plus. Tant que tu es riche et que tu peux apporter ou d'argent ou des voix ou des impôts à l'État. Eh bien, on te recevra bien. Le jour que tu perdras l'argent et tu ne pourras plus payer des impôts, tu n'apportes pas les impôts des autres ou tu n'apportes plus des voix pour le vote, etc. Ça, tu n'existes plus. Ils vont pas t'aider. Donc, ne crois pas que c'est une amitié. Les Shem Shamaïm, c'est ce qui a des intérêts. Donc, fais attention. Ou Haya Omer, lui, il disait, qui c'est? C'est toujours Rabban Gamliel. Il y a ici un chidouche, c'est Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Monsieur Rabban Gamliel, il parlait ces belles paroles pendant la vie de son père ou après que son père est niftar? Est-ce que pendant sa vie, lui, il a fabriqué des proverbes pendant la vie de Rabbi? Peut-être Rabbi lui a déjà donné pendant sa vie une certaine place pour gérer un peu la politique. Et il a fait déjà ses expériences ou ses paroles, il a dit, après la mort de son père. Après la mort de son père, alors pourquoi c'est dans Pirkei Avot? Normalement, Pirkei Avot, c'est fait partie des Mishnayot. Donc, Rebbi, avec ses Chavirim, ils ont terminé. Et il a inséré dans cette Mishnah, normalement, c'est pas comme ça, dans les Mishnayot, après Rebbi a. On n'insère pas des autres. Ici, il a inséré ou le Chachamim après la Ptira de Rebbi. Il y a plus tard aussi une Mishnah. On nous dit après cette chose, il est bon pour le Chachamim, Hanoï, Vahakoach, Vahazikna. C'est beau pour le Chachamim, la force, la puissance, la richesse, la Osher. C'est beau. Et la Gemara nous dit après Rabbi Shimon ben Asya, Hakol nitkaimu b'Rebbi u'banav. Ces qualités se sont réalisées chez Rebbi et chez ses enfants. La richesse, l'honneur, la puissance, la force physique même, ça s'est réalisé chez Rebbi et chez ses enfants. Et là-bas, on parle du zikna, la vieillesse. C'est-à-dire que Rebbi, il est devenu très vieux. D'après les calculs de Rabbi Isaac Halevi, je pense, Rebbi, il a vécu 100 ans. Et la Mishnah nous dit, Nitkaimu be-Rebbi ou be-Banav, et chez ses enfants. C'est-à-dire que ces enfants aussi, ils ont atteint un âge très avancé. Je ne sais pas, 90, 95, 100 ans, les enfants. Donc ça, Rabbi Shimon ben Asya n'a pas pu dire qu'après, que son fils, il a vécu 100 ans. Donc dans cette Mishnah, on a ajouté encore quelque chose pour fermer le tableau. Rabbi et ses enfants, on a ajouté. Donc dans notre Mishnah aussi. Quand les Tanaïm après Rebbi, ils ont ajouté le Chvodo chez le Rebbi, on a ajouté aussi une parabole de son fils. Ou Haya Omer, lui il disait, toujours Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda HaNassi, Aseretsono Kirtsoncha, fais sa volonté comme ta volonté. Kedeshi Aseretsoncha Kirtsono, afin qu'il fasse ta volonté comme sa volonté. Alors, c'est très caché. Qu'est-ce que je veux dire? Fait sa volonté. Qui c'est sa volonté? Anonyme. Sa volonté, la volonté de qui? Tu fais sa volonté comme ta volonté. Alors, Pshat Pashut, c'est que sa volonté, c'est la volonté d'Hachem. Fais la volonté d'Hachem, Kirtsonecha, comme tu fais ta volonté. Ça veut dire avec le même empressement. Un homme qui a une affaire à régler, une bonne affaire, qui gagne beaucoup d'argent ou qui est quelque chose de super bien pour lui, eh bien, il est heureux, il le travaille, il veut réussir avec. Ils mettent la tête dedans, je fais une super affaire ici, tu es tout dedans. Maintenant, la Mishnah nous dit, Aseretzono, Yotzoncha, fais la volonté de Dieu, fais les mitzvot avec le même empressement, la même rapidité, la même concentration, la même joie, fais la volonté d'Hachem, Kirtzonecha, comme s'il s'agit de ta volonté. Kedeshia, Aseretzoncha, afin que lui fera ta volonté comme il fait sa volonté. Qui c'est lui? Lui, c'est Hachem. Hachem aussi va te donner ce que tu demandes. Yaseretzoncha, toi, tu es à une volonté, que ce sera une volonté de mitzvah ou une volonté dans ta vie, dans ta parnassa, dans toutes tes actions. Tu veux réussir, Dieu va te faire réussir. Comme Dieu, il s'occupe de ses propres intérêts et il réussit, il va te faire réussir dans tes affaires aussi. Donc ça aussi, c'est lié avec ce qu'il parlait avant. Chacun qui travaille avec le tzibour, et Amélie, le tzibour, avec les Shem Shamaim, ça veut dire, quand on travaille avec le tzibour, souvent, on est obligé de prendre de son propre temps. On vole de son propre temps. On dirait, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi, je m'occupe avec le tzibour. Alors, ça va me manquer. Alors le Tanna, il te dit, mais tu sais, comme c'est pour faire la volonté de Dieu, eh bien, Dieu, il va te faire des volontés, il va t'aider. Ce que tu as besoin, ça va venir. Hachem, il va t'aider. Tu mets toute la force dans les intérêts de Dieu, tu le fais comme si c'était ton affaire, et tu te prives de t'occuper de ton affaire. Hachem, il va t'aider, il va aussi s'occuper de tes affaires. Après, la deuxième Mishnah, Batel Retzon Chamipne Retzono, annule ta volonté devant sa volonté. Afin qu'il annule la volonté des autres devant ta volonté. Alors, si on dit dans le début de Mahamar qu'il s'agit de la volonté de Dieu, lui, c'est Dieu, donc la suite aussi, c'est Dieu. Annule ta volonté devant sa volonté. Si Dieu ne veut pas que tu fasses ça, maintenant tu avais envie de faire, annule ta volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est de ne pas faire ça. Grâce à ça, « Yevatel retson acherim mipnei retsono »« Retsoncha » Ça veut dire quoi? Dieu va annuler la volonté des autres. Qui c'est les autres qui veulent te faire du mal? S'il y a des gens qui veulent te faire du mal, Dieu va annuler la volonté des autres « mipnei retsonecha » pour qu'ils ne dérangent pas ta volonté. Alors, quelle est la différence entre la première moitié du Mahamar et la deuxième moitié? La première moitié du Mahamar parle des mitzvot asei ou des actions. La deuxième moitié du Mahamar parle de refuser de faire quelque chose. De l'avim. Asei retsono, fais sa volonté, c'est tu es actif. Tu fais avec un grand empressement la volonté de Dieu. Et grâce à ça, Dieu, il va s'occuper de tes affaires, il va t'aider que tu réussisses ce que tu as besoin. La deuxième partie du Mahamar, annule ta volonté devant sa volonté. C'est quand il s'agit de quelque chose d'interdit. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Mais moi, j'ai eu envie de faire. Eh bien, annule ta volonté devant la volonté de Dieu. Eh bien, Dieu va aussi annuler. Il va annuler la volonté des autres, ceux qui veulent te faire du mal. Il va les annuler devant ta volonté. Il y a un autre pérouche qui dit, il va annuler la volonté des autres, ce n'est pas des autres hommes. En vérité, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Dieu va annuler sa propre volonté pour te faire plaisir. L'Éternel n'a pas voulu dire que Dieu annule sa volonté. Ce n'est pas joli de dire Dieu annule sa volonté, comme si Dieu ne fait pas ce qu'il veut. C'est une façon de parler. Il annule la volonté des autres. Ça veut dire la volonté de Dieu, mais ça ne se prononce pas. Donc, Dieu, il va annuler sa volonté devant ta volonté, comme on dit, Tzadik Gozer, Va Kadosh Baruch Hu Mekayem. Des fois, Hachem, il a un plan et le tzaddik, il demande à Hachem, change ton plan, s'il te plaît, fais autrement, je te supplie, fais autrement. Hachem, il dit, toi, tu as la coutume d'annuler ta volonté de ma volonté, je te fais plaisir. Donc, ça, c'est l'explication quand on explique cette Mishnah, que sa volonté, c'est Dieu. Mais il y a une autre explication du Meiri, qu'en vérité, ici, on ne parle pas de Dieu, on parle les humains entre eux. Un homme, il a des contacts avec des gens. Et des fois, moi, je veux comme ça, et l'autre, il veut autrement. Dans le business, dans tous nos contacts, les voisins, mille choses, des relations sociales. Alors, il y a des gens qui sont durs. Ils veulent quelque chose, il faut que ça marche d'après ma tête. Et si l'autre ne veut pas, eh ben non, c'est à l'autre de s'incliner à ce que moi je veux. Et la Ramamli dit non, il faut pas faire comme ça. Eh ben, fais sa volonté comme ta volonté. Il faut savoir, ça va, c'est pas grave. On va faire comme l'autre il veut. Faut prendre une décision. Moi, j'aurais voulu comme ça. Sois souple. Fais la volonté de l'autre comme tu fais ta volonté. Et fais une tête bien. Ne fais pas la tête de où je suis fâché parce que j'étais obligé de m'incliner. C'est pas grave. Fais la volonté de l'autre comme ta volonté. Qu'est-ce que tu vas gagner? Que l'autre, il va faire aussi ta volonté comme sa volonté. Aujourd'hui, toi, tu t'inclines. Demain, l'autre, il va s'incliner. C'est comme ça. Normalement, c'est des gens normaux, gens qui ne sont pas malades, pas des pervers narcissiques qui veulent toujours que ça marche comme eux. Des gens normaux, il y a un va-et-vient. Moi, je m'annule aujourd'hui, toi, tu t'annules demain. Moi, je m'annule demain, toi, tu vas t'annuler ta volonté après-demain. Ça, c'est le sens. Tu fais la volonté de l'autre, demain, il te fait la volonté. Tu annules aujourd'hui ta volonté, l'autre, il va annuler la volonté. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que c'est beaucoup plus facile quand les gens ils peuvent céder à la volonté de l'autre, c'est beaucoup plus facile. On perd du temps, pas besoin de se bagarrer, bagarrer, bagarrer. On ne se bagarre pas. Hillel Omer, on continue. La Mishnah nous dit, Hillel, il dit. Alors, il est là, maintenant on revient en arrière. Jusqu'à maintenant, on est toujours descendu les générations depuis Moshe, Yeshua, Ninivi, Mlatchek, Gdola, tous les Tanaïm, etc., jusqu'à Rebbi. Après Rebbi, Rabban Gamliel, le fils de Rebbi. Jusqu'à ici, c'est descendu. Ça y est, maintenant, c'est terminé. Après, il n'y a pas d'autres Tanaïm plus tard. Maintenant, Pirkei Avot, on revient à des personnages qu'on a déjà parlé d'eux ou d'autres Tanaïm qui vont venir dans Pirkei Avot. Alors, revenir maintenant au Tanaïm. Autrefois, le premier, c'est qui? Hillel. Il recommence avec Hillel. Pourquoi on commence avec Hillel? Bon, Hillel, c'est le grand-père de Rebbi. Hillel, c'est l'arrière-grand-père, c'est le grand ancêtre. Hillel Omer, donc on répète encore des paroles de Hillel. Hillel, il dit. Alors, Hillel, il a déjà parlé au premier Pérec. Negit Shema, Avat Shemé, Mili, Mimani, Mimalach Il a déjà parlé au premier chapitre. Et maintenant, on apporte d'autres paroles de Hillel. Alors, pourquoi c'est partagé? Pourquoi ces paroles de Hillel qui sont ici dans ce deuxième Pérec, pourquoi ils ne se trouvent pas dans le premier Pérec? Soit que le Tanaï ne voulait pas trop être ma'arich dans le premier Pérec, on voulait citer dans le premier Pérec jusqu'à Rabbi Shem, Rabbi Shem Gamliel, tous les la Masoret HaTorah. Donc, on n'a pas voulu ma'arich trop longue avec tout ce qu'Hillel disait. On va dire ça plus tard. Où le pshat il est que ce que Hillel a dit dans le premier Pérec, c'était pour lui plus important. Il le répétait plus. Ça, c'était des répétitions qu'il a insisté le plus. Donc, ce Mahamar est resté le Mahamar de Hillel au premier Pérec. Et ça, c'est peut-être qu'il a insisté moins. C'est des enseignements aussi qu'il a dit toute sa vie, mais pas tellement beaucoup répété dans le premier. Donc, dans le premier Pérec, on citait le Mahamar, plus important d'Hillel. Alors, Hillel Omer. Al tifrosh min hatzibur. Ne te sépare pas de la communauté. Un homme, il doit vivre en communauté. Il doit s'associer avec la communauté. Il doit aider à la communauté. Il doit participer. C'est important parce que la communauté, Si elle n'existait pas, il n'existe que des individus. Des individus seuls, c'est très, très dangereux. Il y a tellement beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Tu ne peux pas faire une école tout seul, tu ne peux pas faire un minyan tout seul, tu ne peux pas faire un Chevra Kadisha, une caisse de Gmilot Chassadim. Il y a mille choses qu'on est obligé d'avoir une communauté. Alors quelqu'un dit, bon, les autres, ils font, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je ne participe pas, je ne paye pas mes impôts, je ne vais pas à la shoul, je n'achète pas de mitzvah, je vis pour moi, ce n'est pas beau. Al tifrosh mina tzibour. Parce que le tzibour t'a besoin. Mais il y a aussi un autre sens de Hillel. Pas parce que le tzibour t'a besoin, c'est parce que toi as besoin le tzibour. Tu crois que tu dois participer à la communauté parce que la communauté t'a besoin. Oui, évidemment, la communauté t'a besoin. Mais toi, tu as besoin autant de la communauté. Ne crois pas que tu n'as pas besoin de la communauté. Alors, Hillel disait. Peut-être ça faisait, c'était un petit clin d'œil, c'était un petit moussard qu'il disait, peut-être à cette secte d'Issyim, j'ai déjà parlé hier ou avant-hier, il y avait une secte d'Issyim qui se sont séparés du peuple, qu'ils ont vécu en vase close. Ils avaient leur calcul, leur façon de vivre, qui avait des avantages aussi, mais ils avaient l'inconvénient de ne pas être avec les tzibour. Ils se sont séparés même de leurs femmes. Ils étaient mariés, ils avaient deux enfants et ça suffit. Après, ils se sont séparés, ils ont vécu une vie de comment on appelle ça, les gens qui vivent seuls, des ermites, pas seuls ermites, mais entre eux, c'était séparé du tzibbour. Hillel, ça lui plaisait pas. Al tifrosh mina tzibbour, ne fais pas des choses comme ça, c'est mieux d'être avec le tzibbour. Maintenant, il faut être avec le tzibbour. Et qu'est-ce qu'on fait si dans le tzibour, il y a un problème? Je sais pas, il y a une catastrophe, il y a une peste. Alors, il faut être avec le tzibour. Quelqu'un dans une peste, il veut quitter. Est-ce qu'il a le droit de quitter? Alors, c'est marqué dans la Gemara Ta'anit. Il y a la peste dans la ville, quitte la ville. Et pourquoi tu dois attraper? Mais il est marqué, Magen Avraham, il dit, mais dans quel cas il peut quitter la ville? Quand il ne sert pas. Mais si tu sers, faut pas quitter, il faut être s'associer. À une autre époque, les médecins, les infirmiers, ils sont les premiers. Ils peuvent aussi dire, moi, je ne veux pas aller, je veux quitter, je vais quitter la ville, je vais vivre seul. Non, ça ne se fait pas. Altifroch mina tzibour, si ta présence, si ton aide sert au tzibour, il faut participer. Jusqu'à où? Je ne sais pas jusqu'à où, mais il faut participer. Mais quelqu'un qui ne peut pas aider, un individu qui ne peut pas aider, et c'est dangereux, il a le droit de partir, le droit de se mettre à l'abri, il ne sert à rien. Mais s'il sert, il faut aider. Alors, pourquoi on nous raconte les paroles de Hillel ici? Parce que c'est la suite de ce que Rabbi Gamliel disait. Rabbi Gamliel disait avant que quoi? Tous ceux qui travaillent avec le tzibour, qui travaillent les Shem Shamayim. Donc, il a parlé, travaille avec le tzibour, il travaille les Shem Shamayim. Et maintenant, le Tanna nous rapporte les paroles de Hillel. Il a averti les gens, participer au tzibour, c'est-à-dire le chef de la communauté. Il ne peut pas porter la communauté tout seul. Les gens, je ne suis pas président de la communauté, je ne fais pas partie de la commission de la communauté. Donc, je suis un individu, je rentre, je sors et ça m'intéresse pas. Non, non. Il faut participer, même si tu n'es pas en haut, tu dois participer. Donc, ceux qui travaillent avec le tzibour, ils doivent être encouragés par la participation de tous les gens. Altifroch mina tzibour. Val tamin ba'atzmacha diomotra. Ne crois pas en toi-même jusqu'au jour de ta mort. C'est-à-dire quoi? Ne crois pas. Ne crois pas que tu as acquis des qualités. Soit des qualités de moralité, soit de l'argent aussi, soit une position puissante. Et ça y est, c'est bon. Moi, j'ai assez d'argent jusqu'à 120 ans, j'ai assez de kavod, j'ai ma santé, je n'ai plus besoin de personne. Eh bien, ne raisonne pas comme ça. Ne crois pas en toi et en tes forces. Tes forces peuvent te perdre, tu peux te perdre. On peut perdre la santé du jour au lendemain. On peut perdre l'argent du jour au lendemain. Aujourd'hui, avec ce virus-là, Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont fait cette découverte, peut-être la première fois de la vie. Ça, du jour au lendemain, c'est oh là là, il y a des gens qui ont perdu leur parnassa, et pas un, et pas deux. Et c'est encore plus après Altifrosh Minatibour de ne pas se séparer de la communauté. Il faut aider parce qu'il y a des gens qui sont tombés ou qui risquent encore de tomber à ce shalom. Mais ne crois pas en toi, en tes forces seules. Donc, participe à la communauté. Tu participes avec eux, tu seras aidé avec eux. Tu aides aujourd'hui la communauté, demain la communauté va t'aider. Tu dis, je n'ai pas besoin de la communauté qu'on m'aide. Tu ne sais pas, ne crois pas en toi. Ça aussi au niveau de livret Torah. Alors, il dit, j'ai étudié tout seul. Je n'ai pas besoin d'aller étudier chez quelqu'un. Je sais étudier tout seul. Il ne faut pas raisonner comme ça. Ne crois pas en toi. Ce n'est pas sûr. Tu vas oublier ta Torah. Ne crois pas que tu connais, ni tu connais tout, ni tu te rappelleras de tout. Un homme seul, il est faible. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. On est toujours fragile. Toute la vie, on est fragile. Et le jour de la mort, ça, hein, restera sur toi pour toi-même. Alors, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs explications. Première explication, on a la coutume de dire, Tadine, juger, c'est-à-dire quoi juger? En quoi je juge? C'est-à-dire condamner. Ne condamne pas ton prochain, tant que tu n'es pas arrivé à sa place, mekomo dans le sens, dans sa situation. Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux condamner? Condamner, ça veut dire, je pense que je suis meilleur que l'autre. L'autre, il est inférieur à moi. Ou, pas seulement une question d'inférieur, l'autre, c'est un type faible. J'ai une idée de l'autre, j'ai vu comment il se comportait dans cette histoire. C'est un voyou. Ça, c'est un lâche. J'ai vu, j'ai entendu qu'est-ce qu'il a fait. C'est vraiment un. Il est terrible, ce type. Tu décides qu'il est terrible. Alors, il te dit, attends, attends, attends. Al-Tadi dit, ne condamne pas, ne mette pas une croix dessus tant que tu passes sa place. Il faut bien connaître la situation. Bien connaître sa situation familiale et pourquoi il a agi comme ça et qui lui a donné cette idée et qu'est-ce qui l'a amené. Il y a tout un contexte. Et quand tu seras dans son contexte et tu verras bien le pour et le contre, peut-être tu penseras qu'il n'est pas si méchant. Peut-être tu verras qu'il a fait une mitzvah. Peut-être tu verras qu'il ne pouvait pas faire autrement. Dans cette situation, c'était la meilleure des choses qu'il a fait. Ou peut-être il a fait un mauvais choix, mais ce n'était pas si grave. C'est vrai, il a fait un mauvais choix. Il aurait pu faire mieux, mais c'était très difficile à faire mieux. Tant que tu es loin de sa situation, tu penses que c'est terrible, mais c'est n'importe quoi, mais c'est un archivoyou. Et quand tu seras proche à sa place, tu vas dire non, ce n'est pas un archivoyou, c'est un petit voyou, mais ce n'est pas un grand voyou. Ou peut-être ce n'est pas du tout un voyou. Ou peut-être c'est obligé. Et ça, c'est tellement beaucoup de situations. Une histoire connue, c'est, vous connaissez l'histoire avec le portable. On raconte, il y avait une femme à un mariage. Alors, bon, un rav Khachouv, il est venu au mariage, il est parti chez le père de la Kala, il dit Mazal Tov. Alors, il y avait deux, trois personnes à côté. Alors, le père de la Kala a dit, personne ne vous a appelé. Bon, il y avait un type à côté qui l'a entendu ça. Personne n'a appelé. Quel chutzpah! Il est venu te dire Mazal Tov. Ah, il n'était pas invité. Et un machloket entre les deux, il ne se supporte pas. Mais tu n'as pas besoin de lui dire ça en visage devant d'autres personnes, ça ne se dit pas. En plus, il est venu te dire Mazal Tov. Alors, qu'est-ce qu'il veut de faire des histoires et devant les gens? Et vous lui donnez un claque. Bon, il s'est retenu, il n'a pas donné un claque. Bon, c'est grave, après il est parti, il a mangé quelque chose, 5 minutes après il est parti. Le lendemain, la personne là, il rencontre le père de la Kala, il dit, tu sais, hier soir j'aurais voulu te donner un claque en public. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la chutzpah. Pourquoi? Quelle chutzpah? Comment tu t'es parté? Le Rav, il est venu. Mais Madame Khashoggi, tu dis comme ça, tu dis, personne ne vous a appelé? Alors le père, il a dit, ah, ça, c'est ça pour... Mais je vais te raconter l'histoire. Hier matin, j'ai prié dans la choule. Ce Rav, il est, on a prié ensemble. Hier matin, j'ai dit à la communauté, j'ai perdu mon portable et je ne sais pas quoi faire. Je marie ma fille cet après-midi. Je n'ai pas de portable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un portable trop? Alors, ce Rav, il a dit, tu sais quoi? Prends mon portable, je te le prête. Je n'ai pas besoin aujourd'hui. Tu fais tes coups de fil. Et ce soir, je viendrai te dire Mazal Tov. Tu me diras si quelqu'un l'a appelé au téléphone. Tu me dis qui m'a appelé. Comme ça, je leur téléphone. Donc, quand le Rav, il est venu me dire Mazal Tov, j'ai dit, personne ne vous a appelé. Personne ne vous a appelé sur le portable. Voilà. Des histoires comme ça, il se passe tous les jours des prix quiproquos comme ça. Alors, ne juge pas ton copain, Achetigialimkomo. Mais il y a aussi un autre pshat. Altadina travercha Achetigialimkomo, ça veut dire ne pas seulement condamner, ne pas juger l'action. Ça veut dire, c'est pas une question de condamnation. Comprendre l'autre. Comprendre pourquoi il a pris cette décision, il faut être dans cette situation. Chaque situation autrement. Mais un autre pshat, Altogi, Rassilgim Komo, le Meiri. Des fois, il y a un monsieur qui vient chez nous. Il vient d'une autre ville, personne ne le connaît. Et il se présente comme quelqu'un de super bien, de super réussi. Il fait une impression extraordinaire. Alors, la coutume des gens, qu'on lui fait confiance. C'est quelqu'un, ouais, il présente bien, il parle bien, il a de charme. Ouais, c'est bien. Alors les gens peuvent aveuglément lui faire confiance. Alors il dit, Altadine ne le juge pas. Komo, pars dans la ville où il vient. D'où il vient? Il vient de telle et telle ville. Une fois que tu rentres dans ta ville, tu demandes qui c'est ce monsieur? Et tu entendras ce qu'on dit ce monsieur. Peut-être c'est pas du tout l'image qu'il a dressée ici. Peut-être là-bas il est connu comme monsieur qui n'est pas digne de confiance. Alors ne juge pas pour le mal. Peut-être quelqu'un il est bien. Et ne juge pas bien. Peut-être il est mal. Si tu le connais pas, Altadine Travera, ne donne pas un tampon que quelqu'un il est super bien. Ah, tu te dis, autant que tu n'étais pas dans sa ville. Dans sa ville, on connaît la personne. Les gens, ils savent qui il est, s'il est malhonnête ou je ne sais pas quoi. Les gens des villes le savent, seulement à l'extérieur, ils veulent se vendre différemment. Val Tomar, d'avoir, si Yepchar Lishmoa, je soufa le Hishameya. Alors, il y a beaucoup d'explications. Al Tomar ne dit pas, d'avoir, si Yepchar Lishmoa, ne dis pas à ton copain quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire. Je souffle l'Ishama parce qu'à la fin, ça sera su. C'est-à-dire, tu connais un secret. Et c'est un secret qui ne doit pas être connu. Si les gens ils le savent, il y a quelqu'un qui va perdre, il va avoir peur, il va perdre, il va embrouiller quelqu'un. C'est un secret. Alors, tu connais un secret, s'il te plaît, tu le gardes chez toi. Mais pourquoi je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre? Mais personne ne va le savoir. Non, on va vite savoir. Si tu parles à quelqu'un, ce quelqu'un, il parle à quelqu'un, et toute la ville sera au courant. Al Tomar Davar ne dit pas quelque chose. Si Yefchar Lishmoa, il n'a pas le droit d'être entendu, ne le dis pas. Alors, s'il ne faut pas être entendu, alors tu ne le dis pas. C'est faux. L'Ishama, parce qu'à la fin, ce sera bien entendu. Il y a un autre pshat qui dit, il y a des gens qui parlent, ils parlent pas clairement. On comprend pas ce qu'ils disent. Et tu dis, c'est pas grave s'ils comprennent pas. Il n'a qu'à se casser la tête pour qu'ils comprennent. C'est pas comme ça qu'on parle. Al Tomar Davar, si Yefchar Lishmoa, ne dis pas des choses qu'on peut pas entendre, qu'on peut pas comprendre. Les gens, ils comprennent pas ça. C'est Sofoli Shama, et à la fin, ils vont le comprendre. Ils n'ont qu'à méditer ce que je dis. Non. Ne dis pas, ne te prends pas. Il n'y a qu'à méditer tes paroles. Tu es qui, toi? Faut méditer tes paroles. Tu veux dire quelque chose, tu les dis et tu t'expliques. Si tu t'expliques pas, c'est pas bon. faut pas que les gens ils doivent deviner ce que tu as voulu dire. Ça donne après des contresens. Qui a dit tous ces Ma'amarim? C'est toujours Hillel. On a déjà parlé, Hillel a vécu dans une époque très troublée. Quand il est venu, c'était l'époque des Hérodes. À l'époque des Hérodes, ça a été une époque très difficile. Bon, peut-être que toutes les époques sont difficiles. En tout cas, lui, c'est sûr qu'il était dans une époque difficile. Et les gens, ils se soupçonnaient l'un à l'autre. On condamnait dans l'esprit, on n'a pas compris. L'autre, il se comporte comme ça, lui se comporte comme ça, lui comme ça. Il y avait beaucoup d'incompréhension parmi les gens. Et donc, il est dit, ne juge pas, ne condamne pas l'autre tant que tu n'es pas à sa place. Alors, exprime-toi clairement. Si tu as un secret, ne le raconte pas. Val Tomar ne dit pas le Efne Eshne. Quand je serai libre, quand j'aurai du temps libre, Eshne, je vais étudier. C'est mal au Tipané. Peut-être, tu vas jamais être libre. Alors ça c'est très important. Chaque chose est très importante. Ça, c'est très important. Un homme, il est occupé, mais il faut étudier. Mais j'ai pas le temps. Mais il faut étudier. Ah, plus tard. Quand je me débarrasserai de cette affaire-là, je vais mettre à étudier. Mais le problème, il est chez moi, l'otipané. Maintenant, tu dis, si ça c'est terminé, je vais aller étudier. Et ça c'est terminé, et une autre chose. Bon, si ça c'est terminé, après, une autre chose, et une autre chose. Et comme ça, on veut toujours repousser. Alors, qu'est-ce que tu fais? Étudie, maintenant. Ça y est, au milieu, j'étudie maintenant. On verra après la fin de. Et souvent, ben, Emmet, après, la chose se règle tout seul. Il y a beaucoup d'affaires. On veut à tout prix les réussir jusqu'au bout. Ça ne marche pas. Vas-y, mets-toi à étudier après. Sinon, tu risques de jamais étudier. Hu Haya Omer, lui, il disait. Qui c'est lui? C'est toujours Hillel. Lui, il disait. En bour yerechet. Un bour ne craint pas le péché. C'est quoi bour? Bour, c'est vide, un terrain qui est semé, un terrain labouré, un terrain semé s'appelle un sadeh charusha, un terrain qui est labouré, un sadeh zeroua qui est semé, et il y a un sadeh bour, un terrain vide, abandonné. C'est un homme qui n'a pas fait des études, il connaît rien. Un homme, il connaît rien, il n'a rien étudié. Eh bien, si on est un bour, on n'est pas yéréchet. On ne peut pas craindre le péché. Il ne connaît pas le péché. Pour savoir comment il faut se comporter, quelles erreurs il faut éviter, qu'est-ce que Dieu ne veut pas, ça s'apprend, ça s'étudie. Non, je sais tout seul. Moi, je n'étudie pas. Moi, je sais. Moi, je sais que ce que Dieu veut. Vous avez étudié? Qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier? Je sais. On fait des mitzvot, on fait pas des avirot, je sais. Vous connaissez la Averroth? Eh ben, je m'imagine. Ah, vous vous imaginez. Avec imagination, on peut passer sur beaucoup de lois. Quand on étudie pas les lois, on ne le sait pas. Il y a des gens qui croient qu'ils savent rouler en voiture. Ils font pas le permis. Moi, je sais, je sais, je connais, je sais. Oh là là, combien de choses tu sais pas? Bon, il va pas perdre le permis parce qu'il n'a même pas le permis. Mais il va se faire. Il connaît, mais on ne connaît pas. Si on n'étudie pas, on ne connaît pas, monsieur. Ne croyez pas. Il y a beaucoup de choses à connaître, monsieur. Un bourg ne peut. Vous craignez pas le péché. Vous négligez la Torah si vous étudiez pas. Velo Amaharetz Chassid. Amaharetz, c'est un peu plus qu'un bourg. Bourg, c'est. Il étudie rien du tout. Il se laisse guider que par sa propre pensée. Amaret, c'est quelqu'un qui étudie un peu, mais c'est un Amaret, c'est pas un Tamitra. Il a un peu de connaissance. Il a un peu de connaissance, bon, il connaît plus ou moins qu'est-ce qu'il avéra ou pas. Mais chassid, être un homme pieux, ça veut dire vraiment bien, ça pas. Chassid, être un homme pieux, faire les choses comme il faut. Faire les choses comme il faut, ça ne marche pas avec un peu d'études. Il faut beaucoup d'études pour bien comprendre. Donc, si quelqu'un, il voit un chassid, il voit un amaretz, Il fait beaucoup de midat chassidut. Il fait des choses super sérieuses, super religieuses. Alors, c'est souvent, c'est, il y a beaucoup d'erreurs, c'est le contraire. Il y a une histoire dans la Gemara, Rabbi Akiva, il a raconté, quand je me suis mis à étudier chez Rabbi Elazar Rabbi Yeshua, tout au début de mon étude, alors il m'est arrivé une histoire, comme ça il raconte. Je me suis promené quelque part, hein, je sais pas, dans la forêt, je sais pas où, un endroit abandonné, et j'ai vu un homme par terre, mort. Un homme, il est mort. Je me suis dit, oulala, un homme, il est mort, mais on ne peut pas laisser comme ça, il faut l'enterrer. Mais où il y a un cimetière? À 12 kilomètres de là, il y avait un cimetière. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a pris ce mort, il l'a mis sur ses épaules et marché 12 kilomètres à pied. 12 kilomètres, il a amené un cimetière, il l'a enterré. Non, après qu'il a fait cet effort surhumain, il était assez heureux, il a dit, ça y est, j'ai fait une grande mitzvah. Je suis revenu à la yeshiva. Et j'ai pris Rabbi Elazar Rabbi Yeshua, j'ai dit, maître, vous savez, aujourd'hui, je fais une grande mitzvah. Ah bon? Quelle grande mitzvah elle a fait? Eh bien, je l'ai porté 12 kilomètres. Alors, Rabbi Elazar Rabbi Yeshua, ils ont dit, chaque pas que tu as fait, c'est comme tu l'aurais assassiné. Quoi? Il y a un halakha qui dit que si on trouve quelqu'un assassiné, mort, dans un terrain vague, il faut pas le déplacer. Met mitzvah, koné mekomo. D'amener dans un cimetière, on amène s'il y a des gens autour. Si on est seul, il y a un autre halakha. Quand tu es seul, tu l'enterres sur place. C'est comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas, probablement aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Le gouvernement ne permet pas d'enterrer comme ça des gens n'importe où. À l'époque de l'Emma, c'était comme ça. Là où il est, on l'enterre, après on fait un signe autour, un met mitzvah. Et le fait de le déplacer, c'est pas correct. Le maître mitzvah veut être enterré là, afarata, mais la fartachouv. Là où il est mort, il a le droit d'être enterré. De le séparer, de l'éloigner, c'est un péché. Alors, Rabbi Akiva, il a dit, ma, si déjà les actions que je considérais comme une grande mitzvah, on m'a dit, chaque pas que je fais, c'est comme tu l'aurais assassiné. Ce que j'ai considéré comme la plus grande mitzvah était en vérité une grande avéra. Comment ça m'est arrivé? Parce que je n'ai pas étudié, je suis un amaretz, je ne sais pas. L'amaretz, il peut prendre des avérotes pour des mitzvot. Comme dit le Rambam, les gens qui sont malades, alors des fois ils ont la langue blanche et des choses sucrées. Eh ben, ils sont un goût amer. Mais il y a des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Et eux, ils pensent qu'ils sont bons. Les gens malades, ils peuvent confondre amer avec sucre et sucre avec amer. Et le Rambam il dit, c'est comme les corps peuvent être malades, comme ça les âmes peuvent être malades. Les âmes, quand une âme est malade, ils peuvent contre samim or le chosher, le chosher or. Matok mar. Omar Matok. La gauche est droite, la droite est gauche. La lumière, c'est l'obscurité, l'obscurité, la lumière. Tu entends des fois des gens dire des thèses, mais tout est aberrant. Ce que tout le monde dit, c'est droit, eux, ils disent c'est tordu. Tout le monde sait que c'est tordu, et lui dit que c'est droit. Il a une tête aberrant. C'est que l'âme est malade. Quand l'âme est malade, on dit le contraire. Et ça, c'est la Amaratsot. La non-connaissance des lois, on dit sur permis interdit, sur un interdit permis. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva, il a dit. Et Trilat, il m'a dit, au début que je commençais à étudier chez Rabbi Yeshua, ils m'ont donné une bonne leçon. Hé, cher jeune homme, tu veux étudier? Il faut étudier. Il faut pas faire les mitzvot après ce qu'on pense. Et Rabbi Akiva, il a fait comme conclusion. Ici, j'ai appris, Alivatel Adam minabet midrash, afilosha. Un homme ne doit pas rater le bet midrash même pas une heure. Chaque heure que tu peux ajouter quelque chose peut te ouvrir, peut t'éclairer, peut te montrer que c'est pile le contraire de ce que tu as pensé. Donc, ça, c'est Velo Ha'aretz Chassid. La Ma'aretz n'est pas un Chassid. Velo Ha'baishan Lamed. Et ce qui est timide, ce qui a honte, de montrer son ignorance, Il a peur de montrer son ignorance. Il pense, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi si je pose une telle question? Le Rabbi Shaan Lamed, il ne va pas avancer dans l'étude. Tu étudies dans un shiur et tu ne comprends pas. Alors, il faut aller ou en privé ou en public. Il faut demander en public. Peut-être les gens ils vont dire, mais ça n'arrête. Ou si tu veux demander en privé, tu demandes le maître. Mais le maître, il va remarquer que je suis Namaret. D'accord, il va remarquer que je suis Namaret. Mais une fois qu'il va me l'expliquer, je serai un peu moins Namaret. Comme ça, chaque jour, je serai un peu moins Namaret. Mais si je ne veux pas montrer à mon maître que je suis Namaret, là, tu vas rester Namaret. Lo habayshan lamed. Donc, il faut enlever la mida de Boucha pour avancer dans la vie. Velo kaptan melamed. Elle est nerveuse. Ne peut pas enseigner. Il ne doit pas être un enseignant. Un professeur qui est nerveux, qui supporte pas la lenteur de ses élèves, qui supporte pas un élève qui n'a pas compris la première fois ou la deuxième fois, il redemande, maître, j'ai toujours pas compris. Eh ben, il faut lui expliquer encore une fois. Mais maître, je comprends pas. Il faut trouver une autre méthode. Et machal, raconter quelque chose, imaginer, après revenir, changer les paroles et rester toujours calme et bienveillant. Mais si on est nerveux, arrête déjà, c'est n'importe quoi. L'autre, il est troublé. Alors ça lui ferme la bouche. Il va rester tranquille. Il va plus te vous embêter, mais il comprend pas. Et s'il comprend pas, tu n'es pas un enseignant. Un enseignant, il est là pour faire quoi? Pour faire des élèves, pour que l'élève comprend ce qu'on lui dit, pour lui donner la possibilité après de comprendre tout seul aussi. C'est ça un enseignant. Mais si tu bloques l'élève, tu n'es pas un enseignant. Tu enseignes, mais tu n'es pas un enseignant. Et l'élève n'a rien compris. À la fin de l'année, qu'est-ce que ça va devenir? C'est quelque chose dans les écoles, il faut faire très attention. Tous les enseignants, ils doivent faire attention de préparer le cours, de savoir comment dire et d'être calme. Il y a plein de halakhot de Shulchan Aruch, il y a un halakha qui dit à quelqu'un qui enseigne dans une école, il doit pas veiller la nuit. Il doit dormir bien la nuit. Parce qu'il va venir au mariage, il va rentrer à 3 heures le matin, il va dormir jusqu'à 7 heures, il va arriver à l'école, il n'a pas bien dormi, il est nerveux. Marqué Shulchan Aruch, un enseignant qui ne dort pas la nuit, c'est un voleur. Parce qu'il ne fait pas son boulot bien, il ne transmet pas bien. Il faut faire très attention. Et ici en France, bah, on reste, mais il y a beaucoup de mariages. Et souvent, ils sont très. Ça prend beaucoup de temps. On arrête les mariages à 11 h, ils sont terminés. S'il y a des mariages, on arrive à 1 h, 2 h. Pourquoi pas? Mais à condition que tu ne sois pas un enseignant. Un métier qui a besoin de la patience. Il y a des métiers qu'on a besoin plus de patience que des autres. Enseignant, beaucoup de patience. Velo ha kaptan melamed. Velo kol hamarbe bisrora markim. Et pas chacun qui fait beaucoup de commerce, markim devient intelligent. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que quand on fait du business, ça ne donne pas d'intelligence. Pourquoi? Parce que les gens. Ils peuvent penser que faire beaucoup de business, ça donne de la chokhma. Quelle chokhma? La chokhma, connaître les gens. On fait du business. On apprend des choses dans le business. Un grand businessman, il a des contacts, il connaît des gens, des expressions. Ça peut donner de la chokhma. Parce que dit Hillel, pas chacun qui fait beaucoup de business, il devient chacham. C'est-à-dire quoi? Pas chacun. Pourquoi il dit pas chacun? Ça rentre chacham ou ça rentre pas chacham? Ça rentre pas chacham, alors il faut dire, Amarbe, Bishora, et non Markim, ce qui fait beaucoup de business, il devient pas chacham. Mais il n'a pas dit ça. Parce qu'il savait qu'on peut lui devenir chacham. Alors qu'est-ce qu'il dit? Mais lo kol hamarbe, pas chacun. Vérité, les paroles d'Hillel sont très fines. Ici, il y a un truc. La Gemara nous raconte que Hillel, il avait 80 élèves. Et le plus grand des élèves, il s'appelait Jonathan ben Uziel. Et le plus jeune des élèves, il s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est venu à la yeshiva à 40 ans. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 40 ans et il avait 80 ans. Il est venu de Babel en Eretz Israël et il s'est mis à enseigner les derniers 40 ans de sa vie. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est rentré, mais il était jeune, mais il est rentré à 40 ans. 40 ans, mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'occupait 40 ans du business. Et il est rentré à la yeshiva, il était plus jeune que les autres élèves. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Le futur Rosh Yeshiva. Après qu'il est le Niftar, qui est devenu le Rosh Yeshiva, le Gadol Hador? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Comment il a fait? C'est qu'il était génial. Mais son génie a été parce qu'il est né génie, ou aussi parce qu'il a fait 40 ans de business. Eh bien, il semble que oui. Les 40 ans de business lui a donné une picroute. Ça lui a donné une charifoute. Ça lui a donné une intelligence suprême. Et quand il se mit à étudier, il savait des choses que les autres ne savaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres élèves à la yeshiva? On voit ce jeune homme-là, 40 ans, ce commerçant, il arrive à la yeshiva. Et il monte, why? Ça veut dire le commerce dans l'intelligence. Eh bien, moi, je vais quitter la yeshiva hein, et je vais faire 10 années de commerce. Ça, je vais devenir un Rabbi Yochanan Zakkai. Donc ça, il est dit, Lo kol hamar bebischora markim, ne croyez pas que chacun qui fait beaucoup de business, il devient un chacham. Il existe des exceptions. Oui, j'ai un élève. Et Ochanan, lui, il est exceptionnel. C'est vrai que sa chokhma de business en business, il lui a donné la chokhma. Mais ce n'est pas chez chacun comme ça. On n'est pas obligé de faire du business pour devenir chacham. Mais ça peut, chez certaines personnes, ça peut aider. Donc, il a fait attention ici, Hillel, pour que les gens ne se trompent pas. Là, on comprend pourquoi ce Mahamar, il est dans le deuxième Perek, dans le premier Perek. Parce que cette histoire-là, c'est mis à la fin de la vie de Hillel qu'il a remarqué que Rabbi Yochanan Zakkai, il est le plus fort de tous. Mais les Ma'amarim qu'il a dit dans le premier Pérec, peut-être il les a déjà dit en Babylonie, d'ailleurs là-bas. On avait dit c'était en araméen, Imenani Limili. Il a dit, ce qui est Negit Shema Vatcheme, c'est en araméen, c'est un proverbe qui vient de Babylonie. Ici, c'est à la fin de la vie, il a fait un avertissement. Malgré que Genève, Rabbi Yochanan Zakkai, ce n'est pas chacun qui fait beaucoup de chokhma. Beaucoup de business, il y a un chacham. Mais c'est vrai, le business peut donner une chokhma. D'ailleurs, la Gemara raconte que Rabbi Yochanan Zakkai, il avait une culture générale extraordinaire. Il connaissait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, dans une ville où il n'y a pas des hommes, sois-toi un homme. Qu'est-ce que ça veut dire dans une ville où il n'y a pas des hommes? Il n'y a que des femmes? Pourquoi ça existe? Il existe une ville où il n'y a que des femmes? Non, ça n'existait pas. Et dans chaque ville, il y a des femmes, il y a des hommes. Non, il n'y a pas des hommes. Il y a des villes où il n'y a pas des hommes. Ou même comme chez Enanashim, mais il n'y a pas des hommes. Comment il n'y a pas des hommes? Ça veut dire qu'il n'y a pas des hommes qui ont la ténacité, qui ont la puissance, qui savent se comporter comme des hommes, qui savent guider la communauté. Dans une ville où il n'y a pas des hommes, ishtadel, alors fais des ishtadlout, mets-toi à être un homme. Ça veut dire, dans une ville où il y a des hommes, il y a des grands hommes, et eux, ils s'occupent de la communauté. Tu n'es pas obligé de chercher prendre leur place. Il y a déjà des hommes. Chaque fois, chercher une place, comme on a déjà raconté l'histoire avec Gidon, il y a des hommes qui s'occupent. Alors, tu peux rester un homme privé, mais il y a des fois dans la communauté, il n'y a personne qui prend les choses en main. Quand personne prend les choses en main, prends-toi les choses en main. Ishtadel. Alors, tu as le droit même des efforts. Alors, tu peux devenir le président de la communauté, tu peux devenir le président de la ville, tu peux devenir le président du pays. Ah, tu vas devenir un homme avec une position dominante. Avant, on avait vu que quoi? Il faut détester la rabbanout, il faut détester la position dominante. Oui, il faut la détester, mais il faut l'accepter quand il n'y a personne d'autre. Bon, si toi, tu ne le fais pas, personne ne le fait, ou des ratés vont le faire, et les choses ne sont pas bien faites, eh ben, tu fais une croix sur ta modestie, et tu t'imposes, et tu seras le chef. Donc, si quelqu'un s'impose, ne peut pas le dire, ah, c'est quelqu'un qui cherche l'orgueil. Peut-être il s'impose parce que il n'y avait personne d'autre. Et il faut bien un chef. Il faut bien qu'il va au feu. Il faut bien hein, qu'il salit les mains dans la politique s'il n'y a personne d'autre. On raconte sur le Rav Shach. Rav Shach, quand il était vieux, il était beaucoup dans la politique. Rav Brisk, il a déjà dit, il faut que tu sois le chef. On lui a dit, vous, mais c'est pas bon. Il a dit, oui, je sais que c'est pas bon. Il dit, alors pourquoi vous faites quelque chose pas bon? Il a dit, je suis obligé. Il faut bien qu'il y ait un qui se mouille. On est obligé de faire des choses quand on est obligé, comme dit le Rambam, ce qu'on est obligé de faire, ça ne donne pas de kavod et ça ne donne pas de bisaïon non plus. On est obligé, on est obligé.